Pour notre 15e talk, nous avons eu l'honneur d'être accueillis au Théâtre du Centaure, lieu mythique à Marseille, pour découvrir le parcours de sa créatrice, la mystérieuse et majestueuse Camille. Un talk émouvant qui nous a fait voyager. Merci à Camille et à Charlotte pour cet accueil et cette organisation. Merci à l'équipe Very Good Truck de nous avoir régalés et bien sûr, merci à Lily. Très belle écoute.
Bienvenue donc au Théâtre du Centaure. Je vais un peu, vous avez vu des petites choses là, j'imagine que vous êtes un peu baladé sur le site. Je vais peut-être vous raconter un petit peu ce que c'est que le Théâtre du Centaure et quelle est notre démarche et un peu l'histoire du théâtre. Et puis après, n'hésitez pas, je pense que vous avez plein de questions et c'est beaucoup plus peut-être intéressant et joyeux d'échanger les paroles par des questions. Donc d'abord le Théâtre du Centaure, d'abord moi je suis Camille, donc directrice artistique du Théâtre du Centaure. J'ai avec Manolo, qui est aussi directeur artistique et qui a fondé la compagnie en 1989, et moi je l'ai rejoint en 92. Donc tout ça, ça fait plus de 30 ans que la compagnie existe et 30 ans qu'on a imaginé créer cette équipe et cette compagnie. Donc, on travaille autour d'un concept, d'une philosophie qu'on appelle l'acteur centaure. Donc, l'acteur centaure, c'est un acteur mi-humain, mi-animal, mi-humain, mi-cheval. Mais évidemment, un vrai centaure, ça n'existera jamais, à moins d'une opération chirurgicale. Et donc, on travaille au quotidien à créer ce lien très particulier. Et c'est justement parce que ça n'existe pas, c'est parce que ce n'est pas possible, parce que le centaure est une utopie, que ça nous passionne et nous intéresse beaucoup, d'aller vers quelque chose qui est de l'ordre de l'impossible. Et donc, tous les jours de notre existence, on travaille à créer ce lien très particulier avec notre partie animale. Donc tous les jours, bah, comme vous avez vu là tout à l'heure sous le chapiteau, on travaille ensemble, on polie, on travaille notre centaurisation, c'est-à-dire notre lien le plus intime possible avec notre partie animale. Et évidemment ce lien, au Théâtre du Soleil, Ariane Mouchkine, elle dit qu'il faut travailler le muscle de l'imaginaire. Eh bien, nous, on travaille au quotidien plutôt le muscle du lien, de la relation à l'autre. Alors, l'autre, c'est un autre avec un grand A, puisque c'est l'autre animal, l'autre qui est véritablement autre, un autre à quatre pattes, alors que nous, on a deux jambes. Mais on travaille à cet emboîtement à la fois physique et psychique, cette symbiose, c'est-à-dire cette forme de complémentarité qu'on peut avoir l'un avec l'autre. Et voilà, alors en même temps, c'est cette relation se tisse dans le temps. C'est pour nous, la question du temps est véritablement importante, puisque c'est dans le temps qu'on construit notre centaure, et ce n'est pas un petit temps, c'est une way of life, comme peuvent dire les anglophones, c'est une expérience de vie, puisque c'est vraiment à l'échelle d'une vie entière pour les chevaux, hein, puisque ils arrivent ici, ils sont tout jeunes poulains, et ils repartent, on les accompagne jusqu'à ce qu'ils soient plus là, plus en vie, puisqu'on les accompagne jusqu'à la retraite, et voilà, et au-delà. On vient de perdre des vieux qui nous ont accompagnés il n'y a pas longtemps, et donc c'est forcément des douleurs intenses, puisque c'est 30 ans de vie partagée ensemble. Et d'un coup, j'en perds mes mots parce que d'un coup, j'ai eu une vision qui m'a un peu troublée. Donc c'est vraiment un rapport de... Un peu comme dit le renard au petit prince, c'est le temps que tu as donné à ta rose qui fait ta rose si importante. Et pour nous, c'est vraiment ça. La question du temps est une question fondamentale dans notre relation, parce que c'est par le temps que la relation va se tisser et par le temps qu'on va trouver cette qualité de relation. Et donc, ce muscle, finalement, de la relation, on le travaille au quotidien depuis que le poulain est poulain, donc... Ça veut dire, pour Graal qu'on vient de perdre, que je viens de perdre et qu'on vient de perdre. Il avait juste six mois et il est mort à plus de 30 ans, donc c'est incroyable. Et pour d'autres chevaux comme Sombre, comme vous avez vu, et Gaïa, ils sont rentrés ici dans la compagnie, ils avaient tout juste 2 ans et demi. Donc c'est maintenant ils en ont 11 et 12. Et donc ça fait déjà plus de 10 ans qu'on travaille ensemble. Voilà, donc c'est cette relation de 10 ans, qui va un peu moins, 8 ans, mais qui va durer aussi toute notre vie d'artiste. Voilà, donc et avec ce centaure, qu'est-ce qu'on fait? On vit et on crée ensemble et on crée des œuvres qui sont soit du théâtre, soit de la danse, soit de l'art contemporain, soit du cinéma. Et on tourne autour de ce concept-là qui est l'acteur centaure avec plutôt plusieurs médiums artistiques. D'abord parce qu'on a une énorme gourmandise de la vie et donc on a très envie de faire plein de choses dans notre existence. Et c'est aussi une manière d'avoir plusieurs métiers. Donc pour moi, ça a été ça. J'ai à la fois plein de métiers et un seul. Enfin, c'est formidable. Je suis même architecte, maître d'œuvre et maître d'ouvrage de ce lieu. On en parlera peut-être après. Donc c'est cette expérience de vie nous permet de pouvoir traverser différentes disciplines artistiques. Voilà, est-ce que j'oublie des choses, Dominique, je peux parler du lieu peut-être? Alors Dominique qui est là avec nous, voilà, fait partie de la compagnie, elle est en lien avec tous les publics, on appelle ça les relations avec les publics, mais c'est surtout, elle nous accompagne en tout, sur tout le travail du lieu notamment, et elle fait aussi tout ce qui est la communication pour la compagnie. Je vais peut-être d'abord parler du lieu, comme ça ce sera plus facile. C'est bien que je parle du lieu parce que c'est une manière aussi de parler de moi. Enfin, je vais pas me défausser. Le lieu, comme vous l'avez vu, il a des airs d'Asie. Évidemment, c'est pas pour rien parce qu'il vient de l'Indonésie. Donc, j'ai fait une partie de mes études en Indonésie il y a longtemps, 35 ans, voilà, on va dire un truc comme ça. Et il se trouve que du coup, je parle l'indonésien, j'y ai fait de la sculpture sur bois à cette époque-là. Et j'y suis allée pendant un an pour travailler la danse et le théâtre balinais à l'époque. Et donc, quand il s'est agi de reconstruire les écuries, c'était après Transhumance, peut-être certaines d'entre vous participaient à Transhumance, qui était un grand voyage avec plusieurs centaines de chevaux et d'animaux sur les routes de Provence. On a parcouru plus de 300 km à pied tous les jours avec des grands campements et on passait de ville en village sur notre territoire. Et on est arrivé le 9 juin 2013 à Marseille, avec plus de 6000 animaux dans la deuxième ville de France et plus de 400 000 personnes qui étaient là dans une ville sans voiture, complètement immobile, je ne sais pas comment dire, mais suspendue, c'est peut-être le meilleur terme, au rythme des animaux. Et ça a été un moment extrêmement important, évidemment nous, mais aussi pour les 6000 animaux et les cavaliers et cavalières qui nous ont suivis dans cette expérience, mais aussi pour les Marseillais de pouvoir rendre enfin cette ville aux vivants et une manière de réinvestir la ville par la nature et par le vivant. Voilà, j'ai pas d'autre. Et je m'égare un peu, mais c'est pas mal aussi de s'égarer parfois. Et je trouve, en tout cas, voilà, il s'est agi après Transhumance, la ville de Marseille nous a octroyé donc ce terrain qui est donc à la ville de Marseille, et il s'est agi de reconstruire les écuries et le lieu, et donc ça nous a paru évident de le faire avec charpentiers indonésiens. Et l'idée, c'est qu'on voulait construire un palais en bois. Donc avec Manolo, on a rêvé un peu à tout ça et on a souhaité créer une œuvre en soi, qui est une sorte d'installation, une œuvre artistique en soi. Et l'idée, c'était de construire sans couper un seul arbre. Et donc, on a travaillé avec un charpentier qui ne travaille qu'avec des bois recyclés. Et donc, on n'a pas coupé un seul arbre pour tout l'ensemble de ce projet-là. Donc, si vous observez bien un peu les bâtiments, donc tout est ouvragé, hein, sculpté, ouvragé, tout a été fait à la main. Et en même temps, tous les bois étaient des très vieux bois. Donc, on est allé dans les villages et on a choisi le bois qui était recouvert de noir, complètement, quasiment. Enfin, en France, on aurait considéré que c'était du bois usagé. Or, là, on l'a simplement dépoli. Et puis ensuite, sculpté, assemblé. Et simplement chevillé, parce qu'il n'y a pas un clou, il n'y a pas une vis pour faire cet ouvrage-là. Et donc là, il y a le café, le bureau qui est là-haut, toutes les écuries comme ça qui sont ouvertes comme un peu un cloître, où les chevaux peuvent se voir entre eux, sont aussi ouvragées et sculptées. Et ce bâtiment qui accueille ici des conférences, enfin des expositions, des spectacles, des moments plus de formation, où par exemple il y a le Parc National des Calanques qui vient pour faire des formations. Il y a aussi évidemment des résidences d'artistes, donc c'est aussi un lieu beaucoup de répétitions, mais c'est aussi un lieu où par exemple aujourd'hui il y a eu ce matin deux cours de yoga l'un après l'autre, ensuite il y a eu les enfants qui sont venus, il y a eu un cours de théâtre. Ensuite, normalement, il y a un cours de tai chi qui s'est déplacé spécialement. Merci Anne-Lise, ils sont partis dans les bois pour faire leur séance de tai chi. Voilà, merci. Et sinon, ils le pratiquent ici. Mais il y a aussi une chorale qui s'appelle le cœur du centaure et une AMAP que vous avez pu voir donc tout à l'heure avec les paniers, etc. Il y a aussi cet après-midi, il y a eu les jardiniers et jardinières qui sont venus travailler dans les jardins. Qu'est-ce que j'oublie d'autre? C'est bon, on est OK? Il y a des formations en permaculture. Enfin bref, ça brasse. Et c'est un peu conçu comme un tiers-lieu, c'est-à-dire un lieu qu'on a souhaité ouvert aux usagers, c'est-à-dire que c'est pas un lieu qu'on consomme, mais c'est un lieu qu'on pratique. Voilà, ce qu'on a pensé aussi, imaginer qu'un autre monde est possible, qu'il y a plusieurs possibles, et que ça fait partie d'un des possibles, d'imaginer d'autres types d'existence, plus en relation avec nos parties animales, nos parties nature. Bref, d'être un peu plus en symbiose avec la nature. En fait, oui, il n'y a pas de clous, il n'y a pas de vis, mais tout est emboîté. C'est-à-dire que pendant 25 ans de notre existence, on a vécu en caravane. On a un esprit nomade. Et d'ailleurs, les chevaux, ce sont les grands voyageurs. C'est les grands voyageurs au sens qui... d'abord, parce qu'ils ont emmené les humains... nous ont permis de traverser des très grands espaces, mais c'est aussi le personnage psychopompe qui emmène les morts dans le domaine des morts. Donc c'est ce grand personnage, ce voyageur. Et donc nous, on a toujours été comme ça, on est toujours un peu nomade dans l'âme, et on considère que la terre ne nous appartient pas, qu'on est simplement de passage et qu'il ne faut pas avoir d'empreinte sur elle. Donc le projet a été dessiné comme ça, c'est-à-dire le lieu est entièrement démontable, donc il tient dans deux containers. Ils ont traversé, donc en effet ils viennent de l'autre côté de la planète, Mais en bilan carbone, c'est l'équivalent d'un camion qui vient de la Suisse. Donc ça va, c'est raisonnable. Et voilà. Et quand on partira, bah, soit on démontera et on ira remonter tout ça sur une île déserte, ou je sais pas, ou quelqu'un d'autre, on passera notre bâton et quelqu'un d'autre s'occupera du lieu. Être acteur centre, ouais, c'est juste de le poser comme ça. Bah déjà sans avoir rencontré Manolo, je pense que c'est vraiment notre rencontre qui a fabriqué tout ça. C'est la, d'abord la première symbiose, c'est celle-là. Donc c'est difficile comme ça de le dépeindre. Je ne sais pas s'il peut se peindre en une seule, en quelques phrases. Donc Manolo, ça a été mon compagnon pendant 30 ans. On est toujours compagnons de travail, mais nos vies personnelles se sont, disons, un peu plus, voilà, comme dans une vie normale, mais on a été très, très soudés, plus que soudés, liés. On était vraiment, véritablement, non pas en symbiose, mais peut-être en fusion. Donc, c'était quelque chose de très fort, si bien que... Quand on s'est rencontrés, on n'avait même qu'une brosse à dents pour deux, qu'une valise pour deux. Enfin, il fallait qu'on fasse tout à deux. Enfin, il n'y avait pas de possibilité de ne pas le faire à deux, quoi. Donc, tout ce qu'on a fait, on l'a fait ensemble, véritablement. Lui avait déjà écrit une thèse et un DEA sur le concept de l'acteur centaure, et il l'avait déjà éprouvé auprès d'enfants. Donc, il avait fait des premières mises en scène avec des enfants. Et moi, j'avais un parcours beaucoup plus théâtral, mais issu d'une famille de tradition équestre. Et c'est par mon oncle qu'on s'est rencontrés, parce que mon oncle est... Alors, c'est une deuxième personne voilà, dans mon existence. Il y a Manolo, bien sûr, mais il y a la personne qui nous a fait nous rencontrer, c'est mon oncle, donc le frère de mon père, qui est d'abord qui... était sellier quand il était plus jeune, et puis plus tard il est devenu un des plus gros organisateurs de festivals équestres. Donc c'est lui qui a mis en place en France, mais aussi ça a essaimé partout en Europe, le concept de spectacle à cheval. Et il a, donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a eu Cheval Passion, qui est un énorme festival dans la région, qui draine des milliers de personnes depuis qu'il l'a conçu. Donc c'est il y a 40 ans, je pense. Il est encore metteur en scène avec son fils de Cheval Passion, mais aussi Equestria, mais aussi à Nîmes, mais aussi, enfin bref, il a fait énormément de festivals et il a accompagné d'autres festivals en Europe. Enfin voilà, et du coup, il m'a marqué beaucoup quand j'étais petite, et c'était, il m'a fait monter à cheval, et puis surtout j'ai des images de fascination, parce qu'il débourrait aussi des jeunes chevaux, donc c'était très proche de ça, et j'étais très fascinée par le débourrage des jeunes chevaux. Mais après, moi j'ai toujours été, alors, c'est difficile de souvent, je ne parle pas souvent de ma vie, en fait. Donc là, ça m'embête un peu beaucoup. Mais je vais le faire parce que c'est l'exercice. Parce qu'en général, on se défausse un peu en disant, bah, en fait, on est, si on parle de notre partie humaine, c'est comme si on se scindait en deux et qu'on ne parlait pas de notre partie animale. Donc, on est déjà plus centaure, donc ça ne marche pas. Donc, je vais quand même... Voilà, je vais y aller. Moi, j'ai toujours fait du théâtre. Mon père est artiste. Non, je vais partir un peu avant. Je pense que... Moi, j'étais une petite fille, je pense, dans un univers très heureux, dans la campagne, avec des parents très peace and love, 68 art... un peu union libre, et avec une mère qui aimait énormément la nature. Donc on marchait beaucoup, on allait beaucoup, beaucoup marcher. On passait des heures et des heures dans la campagne. Moi, mon plus grand plaisir, c'était d'aller faire du vélo dans la campagne, même quand je montais à Poney, donc pas très loin de chez moi, mais ce qui me plaisait, c'était d'y aller à pied. Il y avait cette, oh, j'avais l'impression que le monde était à moi, parce qu'il y avait ces grands champs gigantesques qui m'appelaient et tout ça. Donc c'était vraiment ce qui me faisait vibrer, c'était aller dans la nature, quoi. Je passais un temps fou avec mes chats, mes animaux, parce que j'étais fille unique. Voilà. Mais en même temps, par ailleurs, j'étais fille unique, voilà, et très solitaire. J'ai jamais vraiment souffert de ma solitude, mais j'étais extrêmement timide, plus que timide, si bien que c'était presque sur la brèche, c'est-à-dire que quand on me posait une question, je ne répondais pas. Enfin, j'étais joyeuse et toujours positive, mais très pas du tout dans la communication verbale. J'étais dans autre chose, quoi. À Aix, c'était vers Puricard, c'était pas très loin. Et puis mon oncle est de Camargue et mon père aussi de Camargue. Donc on est vraiment, enfin on n'est pas, enfin voilà, c'est la Camargue profonde. Mes grands-parents sont de Salins-de-Giraud. Mon grand-père était ouvrier au Salins-de-Giraud. Donc la Camargue est vraiment inscrite du côté de mon père. Et du côté de ma mère, c'est plutôt la bourgeoisie lyonnaise, très distinguée, un peu. voilà, je ne sais pas comment dire, mais oui, il fallait bien manger à table, ne pas mettre les coudes sur la table, être très distinguée, tout ça. Donc voilà, c'était un peu. C'est pour ça que je dis que c'est un couple de 68 heures, parce que c'était le grand écart entre l'ouvrier et la bourgeoise. Voilà, je suis issue de 68, quoi. Et puis voilà, j'étais relativement heureuse. On voyageait beaucoup aussi. Les voyages ont été très importants pour moi. On a vécu aussi en Martinique pendant plus d'une année, etc. Enfin bref, le voyage aussi faisait partie de ma vie. Et un jour, ma mère est morte. Elle est morte très jeune, puisqu'elle avait même pas 40 ans. Et moi, j'avais juste 13 ans. Donc, c'était. Enfin, voilà, je ne sais pas comment dire, mais sur le moment, j'ai fait en sorte de ne pas trop comprendre ce qui se passait, de continuer à exister. Mais en réalité, ça m'a fondée, ça m'a. C'est très évident que mon socle est aussi cette perte-là. Et aussi le message que m'a porté mon père à ce moment-là, qui à l'époque, donc mon père était, il était chercheur et il travaillait au conseil régional où il était chargé de mission au conseil régional. Je le voyais toujours guindé, en costard-cravate, etc. Une sorte d'ascension sociale comme ça. Mais par ailleurs, il passait son temps à écrire et à peindre. Et donc un jour, il m'a dit, écoute, quand ma mère est morte, la vie est courte. Et donc il faut absolument faire ce qu'on doit faire dans l'existence. Il faut réaliser nos rêves. Et il a décidé d'arrêter tout ce qu'il faisait et de se consacrer à la peinture et à l'écriture. Et je pense que le message est passé sans. Enfin bref, voilà, c'est passé direct et je pense que je l'ai compris très clairement comme une sorte de message de. Je sais rien. Comme Dark Vador qui dit tu dois faire ça ou voilà comme une mais je l'analyse que maintenant hein, tout ça mais je me rends compte que c'est quelque chose qui en fait m'a beaucoup guidée m'a beaucoup marquée donc je me suis plongée vraiment dans le théâtre et dans l'art à ce moment-là je faisais beaucoup de sculptures de bref l'art envahissait ma vie et voilà. Les chevaux, en dehors de mon oncle et en dehors de ce fameux voyage au travers des champs qui était en fait le directeur du centre équestre à côté, était le grand copain de ma mère. Mais, et du coup, il nous permettait d'aller, on se baladait, on faisait des... Voilà. Mais en dehors de ça, je n'ai pas fait le lien à ce moment-là entre l'art et le rapport, enfin, le lien avec les chevaux. C'est vraiment que dans la rencontre avec Manolo que j'ai compris le potentiel de cette démarche. À l'époque, quand je l'ai rencontré, il avait juste Nuno, donc un petit cheval porté-fenêtre blanc qui n'avait pas de grandes capacités, mais qui nous a emmenés tous les deux très loin. C'était au début, au tout début, puisque c'était c'est les premières mises en scène qui étaient faites, c'était avec des enfants. Donc c'était... Mais j'ai senti dans les improvisations qu'on faisait ensemble, puisque moi j'étais à pied et lui à cheval, j'ai senti qu'il y avait un potentiel fou, parce qu'il y avait une, d'abord une relation à la présence, c'est-à-dire dans le sens... On parle souvent de la présence d'un acteur. C'est une des choses... et du rayonnement d'un acteur. C'est, en fait, finalement, qu'est-ce que c'est que la présence ? C'est-à-dire le rayonnement d'une personne, c'est la présence, et la présence, c'est être ici et maintenant, être présent, autant présent. Et souvent, les humains, les acteurs aussi, ont tendance à être légèrement avant ou légèrement après. C'est-à-dire, en fait, ils ne sont pas là, quoi. Et cette présence-là, les chevaux, ils l'ont. Et donc, ils ont un charisme extrêmement fort parce qu'ils sont ici et maintenant, ils sont ici dans le présent, ici dans l'écoute de l'environnement. J'ai senti à ce moment-là que c'était extrêmement fort de travailler avec eux, et aussi parce qu'ils m'ont appris beaucoup dans mon travail artistique. À cette époque-là, donc moi, j'ai 20 ans, parce que à 18 ans, je pars en Indonésie. Donc, pour, je vous rappelle ce que je. Voilà, j'ai fait des études de théâtre, je fais plein de stages, je vais au Théâtre du Soleil, mais aussi dans plein d'endroits, en Italie, etc. Finalement, à 18 ans, je pars en Indonésie. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, hein, il y avait les fameux fax, ou alors les lettres qui mettaient un mois. Donc, c'est pas le même trip que maintenant. Et donc pendant un an, je disparais complètement et je rentre en France parce que j'appelle mon oncle. Parce que je souhaite aller à Paris, dans une fac à Paris. Et mon oncle me dit, mais je connais quelqu'un qui est dans une fac à Paris. Et ce quelqu'un, c'est Manolo. Voilà. Et donc je rentre et je vais à la Sorbonne Nouvelle. Parce que je sais qu'un copain de mon oncle est à la Sorbonne Nouvelle. Voilà. Et donc, on se rencontre comme ça. Et à l'époque, Manolo vit non pas dans une caravane. Parce que là, vous voyez la caravane à l'entrée. Voilà, on a vécu 25 ans dans cette caravane. Elle est belle, elle est ronde, elle est en bois à l'intérieur, elle est superbe. Mais à l'époque, il vivait dans un camion. Et le camion, c'était un camion Iveco. Donc, c'était... je ne sais pas si vous voyez les camions frigorifiques. Et on était à Changy-sur-Marne. Maintenant, ils l'appellent ça Janchy-sur-Marne. À tel point, c'était... on était dans une vieille ferme dans des conditions invraisemblables où il y avait tous les paumés de la terre qui étaient là avec leur caravane. Donc, ce n'était pas... on vit en caravane par choix. C'était vraiment... Toute la misère du monde était là. Donc, il y avait... Fernand qui était qui vivait là, c'était un paumé de la terre, il avait échoué dans une caravane qui était à côté de la nôtre. Il y avait des Belges, une famille de Belges qui était là, le mec il était obèse et quand il sortait il prenait sa carabine, il tirait en l'air et il disait le fermier il avait son pantalon qui tenait grâce à un truc de ballot de paille, enfin bref c'était assez impressionnant quoi, de cet endroit là donc on a commencé comme ça en fait à Changy-sur-Marne sur les bords de la Marne, et on avait monté un espace comme celui-ci, mais en plus petit, avec des ballots de paille, et on a commencé nos premières répétitions comme ça, à ciel ouvert, et on passait des nuits entières à improviser. On n'était que tous les deux, on mettait de la musique. De temps en temps, il y avait Fernand qui se cachait dans un fourré pour nous regarder. Et voilà, et on a fait notre première création qui comme ça, qui s'appelait Carna. Voilà. En fait, il y avait des écuries sur une sorte de... C'était une vieille ferme, donc c'était une ferme qui accueillait tous les paumés de la terre et tout. Il y avait les... et il y avait des amoncellements de caravanes. Mais en même temps, c'était... Pour moi, c'était ce qu'il fallait, en fait, parce qu'on faisait cet aller-retour entre Paris, la Sorbonne Nouvelle, on faisait nos études, donc il y avait un côté un peu pas guindé, c'était pas ça, mais voilà, c'était l'université, voilà, et puis quand on revenait à Changy, ils disaient « Oh, ils vont faire de l'université dans la grande ville et tout ça, dans la capitale !» Donc c'était très étonnant, on était dans un... sorte de déjà de grand écart entre une sorte de je sais pas comment dire, mais les pieds dans la gadoue et la tête dans les étoiles, quoi. Enfin, il y avait déjà ça à l'époque, quoi. À ce moment-là, donc Manolo est en train d'écrire une thèse, la thèse de son DEA. Et donc il est en train de travailler Voilà, et je ne sais pas pourquoi, il me pose une question, il me dit « Quelle est la pièce qui te fascine le plus et que tu imaginerais qu'on puisse jouer avec nos centaures ?» Et je lui ai dit « Écoute, pour moi, c'est les bonnes de Jean Genet. » Parce que j'avais déjà monté deux fois les bonnes de Jean Genet. C'était un texte, je ne sais pas si vous connaissez ce texte. Ah. Je peux pas vous le résumer là, mais vraiment, je vous conseille parce que c'est très court. C'est une pièce qui a marqué l'histoire du théâtre contemporain. Et c'est Jean Genet, quoi. Enfin, c'est une écriture absolument... Il n'y a pas l'équivalent à la fois dans le... Enfin, je sais pas comment décrire, mais c'est à la fois... charnel, c'est, il est dans la... vous lirez, parce que je ne peux pas tout raconter, toutes les histoires. Et c'était un projet fou, parce que monter les bonnes de Jean Genet, alors que le concept n'existait pas, c'est-à-dire on n'avait pas du tout éprouvé encore ça, on avait... répété avec de la musique, avec des musiciens, on avait monté des chorégraphies, des choses qu'on avait dans le bide, mais qui étaient quand même, faut quand même le dire, un peu barrées, dans le sens où c'était pas encore tout à fait regardable. Enfin voilà, c'était des expérimentations avec des acteurs qui venaient du bout de la planète. Il y avait des On avait des copains espagnols, des copains d'Amérique latine, qui venaient répéter avec nous, improviser. Enfin, voilà, on est des Polonais. Enfin, bref, on était dans un truc assez... voilà. Et les bonnes de Jean Genet, en fait, ça se passe dans un salon bourgeois. C'est l'histoire de deux bonnes... qui vont jouer à être madame. Pendant que madame est absente, elles jouent à être madame. Et donc, elles enfilent les robes de madame et échangent leur rôle. Donc, il y en a une qui joue la bonne, c'est-à-dire l'autre bonne, parce qu'elles sont sœurs, donc sa propre sœur, et l'autre qui joue madame. Et donc, elles font une sorte de cérémoniel chaque jour où elles échangent de robes. Et donc, au début, c'est troublant parce qu'on ne sait pas que c'est un jeu, et on montre aussi la violence de la relation de maître à domestique, et l'ascendance de l'un sur l'autre, et le désir fou de la bonne d'anéantir cette violence-là. Et donc, ça va finir par le désir d'empoisonner Madame. Et donc, on comprend qu'elles vont empoisonner Madame. Madame revient. Du poison est mis dans la tasse et elles vont l'offrir à Madame. Sauf que Madame part sans boire la tasse. Et c'est l'une des deux bonnes qui va remettre le costume de Madame et qui va boire la tasse. Donc, c'est à la fois dit comme ça, ça fait polar, mais en fait, c'est écrit avec une telle délicatesse. Ben, bref. Donc, on a décidé de jouer cette pièce en centaure. Donc, on s'est retrouvés dans un salon Louis XV, meuble boule, lustre de cristal, sur les plateaux des théâtres. Donc, la première fois qu'on a joué Les Bonnes de Jean Genet, c'était au théâtre Tourski. C'est le seul dingue qui nous a acceptés. Faut quand même renvoyer ça à Richard Martin, et il le sait, et il sait que c'est le premier à avoir accepté, le premier de tous les programmateurs à avoir accepté qu'on joue sur son plateau. Et si bien qu'on a joué ce spectacle, il est venu en coulisses, il avait les larmes aux yeux et il nous a pris dans ses bras en disant « Vous êtes fous, mais c'est génial, quoi. » Voilà. Donc on a finalement apporté nos mauvaises odeurs, c'est-à-dire nos odeurs des écuries, et on a souillé le plateau des théâtres. Et ça, on a adoré cette transgression, ce rapport-là un peu transgressif au théâtre. Après Les Bonnes, donc, on monte un spectacle qui s'appelle Macbeth de William Shakespeare. Au même moment, on construit donc le chapiteau qui est juste là avec Patrick Bouchain et toute une équipe HMMH. Et on construit ce théâtre démontable spécialement pour cette création. Et c'est un spectacle qui est produit, enfin coproduit par le Festival d'Avignon. Et on a la plus jeune compagnie programmée le plus longtemps dans le Festival d'Avignon. Et donc là, alors déjà quand je joue Les Bonnes, que je mets en scène, j'ai 25 ans. Et là, j'arrive au Festival d'Avignon, j'ai peut-être 26, 27, quoi. Donc c'est quand même un gros... C'est des grosses pressions. On a 20 personnes qui partent ensuite en tournée dans toute la France. On ne revient pas du tout au QG pendant un an. Donc, c'est vraiment une grosse année de tournée complète. Et voilà. Et après, on continue à jouer dans les théâtres, sur les plateaux, essentiellement dans les scènes nationales ou les festivals de théâtre, ou alors à l'étranger. Dans les festivals plutôt de théâtre ou de danse. Et on s'installe à Marseille. Donc ça fait 25 ans. Donc ici, on a inauguré le lieu en 2016, octobre 2016, donc il y a à peine 6 ans. Et ça fait 25 ans qu'on est à Marseille, même peut-être, non, c'est ça, 95, on arrive à Marseille. On arrive à Pastrée. Parce que justement, je parle de Richard Martin à Manolo, parce que lui était parisien de Paris. Enfin, voilà, c'était pour un parisien la province et la province, c'est-à-dire c'est rien. Il n'y a plus de vie, plus d'existence en dehors de Paris, plus de culture, enfin bref, ça n'existe pas. Et il y a Richard Martin qui, à cette époque-là, parle à la radio, je crois que c'est France Culture. De cette séquence-là où il s'attache au théâtre pour, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, vous qui êtes marseillais en partie, non ? Oh mince, personne ! Ah c'est drôle ! Ah si ! Ah oui, oui, voilà. Bon, c'est un moment en tout cas fort, pour nous on a 20 ans, on trouve ça génial quoi, et donc j'enregistre l'émission et je la fais réécouter à Manolo et là il tique et dit ah oui tiens il se passe quelque chose ailleurs et je lui dis écoute j'ai entendu par mon oncle qu'à Pastrée il y a un lieu et il me dit mais je connais très très bien, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup qui s'appelle Jean-Noël François qui était directeur de ce centre équestre, allons voir si il ne nous prendrait pas en résidence. Donc à l'époque, on arrive à Marseille avec nos chevaux en pensant qu'on viendrait en résidence quelques mois, et puis finalement on est resté 25 ans. J'ai eu une vie d'aventure permanente, j'en ai bien conscience. En fait, j'en parlais avec Alma, avec ma fille. Parce que avant de rencontrer Manolo, j'ai rencontré un jeune garçon mais que j'adorais, qui était quelqu'un que j'aimais énormément. Mais vraiment, je lui en ai parlé parce qu'elle me questionnait là-dessus. Et je lui ai dit, sauf que je me serais ennuyée avec lui. Et je l'ai quitté parce que j'avais besoin d'aventure. Et c'est vrai que Manolo m'a offert, enfin, avec lui, on a eu des aventures fous, folles. Et on a... notre vie entière est une aventure, en fait. Je ne sais même pas quel événement est le plus marquant. Alors, le danger, oui, c'est vrai, c'est que nos animaux sont dangereux, et on le sait parfaitement, et que s'ils veulent... ils sont beaucoup, beaucoup plus puissants que nous. Hein. Donc, s'ils ne sont pas consentants, en fait, ils nous le disent de manière très claire. Et d'ailleurs, on fait toujours en sorte qu'ils soient plus que consentants. En fait, on leur demande l'autorisation, mon cher. mais plus que ça, en fait, on les met toujours en confiance. Et c'est parce qu'ils ont confiance en nous et qu'on ne les trahit jamais qu'ils nous suivent partout. C'est-à-dire qu'on est... Ça, avec eux, on est allé au bout de la terre, c'est-à-dire ils ont pris l'avion, ils sont allés à Singapour, ils sont allés il y a encore 2 ans à La Réunion, à Istanbul, ils ont monté des ascenseurs, ils sont allés sur les plateaux des théâtres, bref, on les a emmenés à peu près partout, je sais, dans des gares, j'ai galopé à côté d'un TGV, enfin bref, on est parti dans des aventures folles, mais... C'est vrai, dangereuse aussi. Un hélicoptère au-dessus de la tête avec moi debout sur mes 3 chevaux sur la A55 sur l'autoroute. Tout ça, forcément, c'est des moments extrêmement en fait, dangereux. Et, ou alors, voilà, enfin, en fait, ou même des choses qui sont... anodines et qui peuvent être très dangereuses. Oui, voilà, enfin, je ne sais pas. Alors peut-être si, une fois, on s'est retrouvés très seuls. Justement, pendant la tournée de Macbeth, on était dans un lieu qui était le château de Champs, où c'était un immense espace, une grande prairie, un grand parc. Et la tempête de 2000 était passée par là. Donc il y avait plein d'arbres qui s'étaient couchés. Et on avait planté notre chapiteau à cet endroit et on devait jouer Macbeth. Et ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, ça devait être entre 2 spectacles, il n'y avait plus personne. Toute l'équipe était rentrée. C'était peut-être un grand week-end. Je vous avais dit, on est partis pendant plus d'un an. Hein, donc... sans rentrer chez nous. Donc, dès que les uns et les autres pouvaient, ils repartaient chez eux, aller voir leur famille, etc. Et là, ce jour-là, on était quasiment que nous. Et le vent est monté. Et en un instant, on a vu le chapiteau vaciller, mais complètement vaciller, c'est-à-dire tomber sur lui. À ce moment-là, en plus, on accueillait des photographes, avec un photographe qui était extraordinaire, avec des mannequins qui étaient en train de photographier ce chapiteau qui était en train de briller. Et elle se rendait compte de rien. Donc on a dit, en fait, là, vous ne pouvez plus du tout rester là, il va falloir partir tout de suite. Donc, elles sont parties tout de suite. Heureusement, le photographe, qui est un homme extraordinaire, qui, à ce moment-là, a dit « Moi, j'ai mon permis pour poids lourd. Si vous voulez, je vous aide. On met tous les camions autour et on sangle tout. » Donc, on commence à faire ça. On appelle tout le monde, mais plus personne n'était là. Donc, les gens du théâtre n'étaient pas là. Les pompiers n'arrivaient pas. Tous vacillaient. Et en une seconde, on a vu les écuries se retourner. Comme ça, les chevaux, mais partir comme des bombes, comme si on était sur un champ de course. Et donc, tous nos chevaux qui sont des entiers dans le parc Alors là, on a vu l'apocalypse. Enfin, bref, on avait à la fois tout, puis d'un coup, c'était un désordre. Enfin, c'était impressionnant, quoi. En un instant, en fait, la nature a tout retourné. Voilà, donc bon, après, je sais pas, ça s'est résolu. On a réussi à rattraper tous les chevaux. On les a mis en sécurité, rapidement ramenés à un autre endroit. Et les pompiers sont arrivés. Voilà comment ça s'est fini. Mais c'est une aventure parmi d'autres. Alors, là, quand je suis ici, je suis très contente d'être là parce que c'est des moments de calme intense. Pas du tout aventurier, extrêmement structuré. Je me lève le matin, je fais une séance de yoga, je mange mon petit déjeuner toujours à la même heure, mon repas du midi à la même heure, j'essaye. Je monte mes chevaux pendant 2 à 3 heures le matin. Ensuite, je les rentre. J'essaye de manger avec ma fille quand elle rentre. Ensuite, j'ai des réunions avec l'équipe du bureau. Ensuite, j'écris dans ma caravane qui est là, les prochains projets et puis tout ce que je dois écrire. Et après, je me couche, et etc. Avec les chevaux, c'est environ une heure chacun. Mais aujourd'hui, là, depuis, c'est récent, je les travaille à deux. Du coup, j'ai 2 heures avec eux, les deux. Et c'est super. C'est une nouvelle manière de faire que j'ai trouvé, qui est super chouette. Là, aujourd'hui, Gaïa était un peu chaud, mais parce qu'il y avait plein de gens nouveaux qui n'étaient pas prévus pour lui. Il y avait toutes sortes d'objets bizarres, il y avait du vent, voilà. Mais normalement, il y a quelque chose de très harmonieux qui se dessine entre eux, et c'est de plus en plus chouette entre eux, et ça, j'adore, en fait, qu'ils apprennent à travailler ensemble. Je les ai un peu mariés, en fait. C'est un peu... comment choisir ? En fait, moi, j'ai 3 chevaux. Et Manolo a 4 chevaux, en fait. On n'est pas très prêteurs. On est un peu exclusifs. Donc, même si on a environ 10 chevaux ici, aux écuries et aussi nos retraités... on a quand même chacun nos chevaux. Et du coup, alors, ce que je dis est faux, c'est que maintenant, on va essayer de travailler à 2-2. C'est-à-dire que Manolo va travailler avec 2 chevaux, moi avec 2, et on va voir ce que ça donne à 4. Et puis après, dans l'idée, c'est de travailler à 3 et à 3, et de voir comment ça fonctionne à 6. Voilà, c'est un peu... notre idée, notre envie du moment. Mais il faut savoir que ce sont des entiers. Hein, donc les entiers, normalement, mais jamais... Enfin, dans la nature, il n'existe pas de troupeau que d'entiers. Ça n'existe pas. C'est pour ça qu'on est obligé de les garder en box, séparés. Parce que si on les met ensemble, il se pourrait qu'ils se battent très fort et voire qu'ils s'entretuent. C'est arrivé à des camarades à nous de perdre leurs chevaux parce qu'il y en a un qui a attrapé les cervicales de l'autre. On a tenté il n'y a pas longtemps de mettre 2 chevaux, donc Sombre et Ouest, ensemble et en liberté. Il y en a un qui a attrapé la jugulaire de l'autre. Donc on a vite intervenu, mais c'est en fait mettre 2 entiers ensemble, c'est extrêmement c'est chaud, quoi. Donc, qu'ils soient tranquilles comme ça ensemble, c'est énorme, c'est super. Est-ce qu'il a le trac ? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas... il y a énormément d'émotions qui les traversent. Mais celle-ci en particulier... ils savent qu'ils vont devoir faire quelque chose quand ils savent, parce que parfois, comme ils n'ont pas forcément de vision de ce qui va se passer tout à l'heure, mais quand il y a une sorte de routine et qu'ils comprennent que la routine emmène à ça, ils vont avoir une forme d'anticipation, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir montrer qu'ils savent et qu'ils ont envie de le faire, Et souvent, nous, un des plus gros problèmes qu'on puisse avoir en spectacle, c'est ça. C'est finalement maîtriser, comment dire, enfin accompagner en tout cas leur désir de faire et leur dire oui, oui, c'est ça, mais un tout petit peu plus tard. C'est pas tout de suite, attends. Ben voilà, c'est une sorte de souvent de volonté, d'envie de faire. Voilà. De mémoire intense, quoi. Pourquoi ce choix d'anti... Ben d'abord. Pour les respecter, pour moi c'est une question de respect, à les castrer. Alors on pourrait mélanger les femelles, ce serait un choix, mélanger les juments. Oui, on aurait pu faire ce choix, c'est pas celui qu'on a fait, aussi parce que les entiers... Ouais, ils ont quelque chose de particulier, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de graisse sur l'encolure, donc ça fait qu'ils ont des très très belles encolures. Ils ont une musculature qui est quand même très très développée. Alors les juments aussi, hein, c'est pas, mais elles ont un physique un peu différent. Voilà, je sais pas. Une fois qu'on a commencé, après on peut plus s'arrêter parce que ben, quand il y en a eu un. Je ne sais pas. Et puis, c'est souvent dans le spectacle, vous pourrez, si vous avez l'occasion de demander, c'est souvent des entiers. On fait souvent le choix des entiers. Et souvent, quand on se déplace et que nos entiers rencontrent des juments, c'est tout de suite très compliqué. En fait, c'est très difficile à gérer en tournée. Par exemple, quand on arrive dans une écurie et qu'il y a des juments, donc il y a forcément des juments, après, ils vont mettre 2-3 jours pour s'en remettre. C'est-à-dire, on va... Non, mais c'est pas simple, en fait. Donc, ils vont penser qu'à ça, c'est quand même compliqué, quoi. Je vois que ça fait jaser. Oui, oui, le choix est un moment très, très important. C'est un peu... on prend beaucoup de temps pour choisir nos chevaux. Moi, je suis montée plusieurs fois en Hollande et on est très bien accompagnés par des gens qu'on aime beaucoup et c'est réciproque. C'est vraiment des gens qui ont eu le plus beau frison au monde. Et quand je dis ça, c'est pas subjectif, c'est objectif puisque c'est en termes de notation, il a eu les plus grandes notations au monde. Donc c'est un des plus beaux étalons du monde. Donc ils ont une connaissance des chevaux frisons énormes. Et donc c'est eux qui m'accompagnent pour le choix de mes frisons et ils nous ont proposé de nous en offrir un et quand ils ont vu un de nos spectacles ils nous ont dit mais on a envie de vous faire un cadeau, allez-y, venez. Et en fait on n'est pas tombé amoureux, quoi. Moi je suis pas tombée amoureuse d'un de leurs poulains et voilà, en fait je sais pas, c'est comme avec un humain, en fait, quand on me dit ah t'aimes les chevaux, non, en fait, c'est dire j'aime les chevaux, c'est comme dire on aime les humains. Non, j'aime cet humain-là en particulier, j'aime celui-là aussi, celle-là, celui-là, mais tous les humains, non, en fait. Et les chevaux, c'est pareil. Hein. Enfin, moi, j'aime mes chevaux et j'aime rencontrer des personnalités comme des personnes, en fait. J'aime rentrer véritablement en contact avec certains d'entre eux. Mais pas avec tous les chevaux du monde. Et en fait, dans le fond, ça ne m'intéresse pas. J'aime rentrer dans une relation précise avec un cheval. Donc, c'est. Voilà. Donc, je ne sais pas expliquer ce qui fait qu'il y a un feeling, quelque chose qui se passe entre deux êtres humains ou un humain, un animal. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Je ne sais pas. Les chevaux de Manolo, ils sont beaucoup plus, beaucoup plus rapides. C'est plutôt des ibériques. Ils vont beaucoup plus dans son caractère. Il y a quelque chose de, voilà, ils ont énormément d'énergie, de vélocité. Ils vont aller, voilà, les miens, ils sont beaucoup plus, posés, calmes. ils ont une très belle présence, ils ont un contact avec l'humain très proche. Bon, c'est un peu... voilà, ils sont très différents. Comme nous deux, on est très différents aussi. Alors, c'est assez juste comme question, en fait. C'est est-ce qu'on fait la même chose avec chacun et que finalement, ils sont interchangeables ou est-ce que c'est très, très particulier à chacun? En fait, c'est les deux. C'est-à-dire que c'est extrêmement important qu'il y ait la même base dans le sens où, même si c'est un cheval lourd comme un percheron, eh ben, il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas de la haute école, de la basse école et qu'il ait vraiment tout le... comment dire... tout le panel de tous les exercices qui vont lui permettre d'avoir le physique et le comment dire le la motricité la plus accomplie possible et en même temps va travailler avec la personnalité de chacun mais vraiment en particulier. Alors là c'est moins évident parce qu'ils se ressemblent beaucoup, c'est des chevaux qui sont de la même race et qui quelque part sont frères. Mais on a eu dans les écuries des chevaux très très différents, comme un Baudet du Poitou par exemple. Donc vous voyez à quel point c'est différent d'un Frison. Un Baudet du Poitou, c'est un Baudet, donc c'était les ânes qui faisaient les mules. Donc c'était magnifique, enfin Baudet quoi, avec des longs poils qui se transforment en dreadlocks. Enfin bref, des personnalités incroyables. Complètement différente d'un percheron d'une tonne qu'on a eu qui s'appelait Tao, qui maintenant n'est plus là, ou d'un petit un petit cheval arabe Arjuna qui est qui est pas en écurie parce qu'il est en spectacle en ce moment, en tournée. Mais voilà, ils ont des personnalités très différentes, donc on va faire en fonction de chaque personnalité. Arjuna par exemple, qui est un petit cheval plutôt très petit et qui est très rapide et qui va être très joueur, va adorer travailler à pied par exemple, donc dans un travail en liberté plutôt que monter, donc on va développer plutôt ça avec lui, quelque chose de très joyeux, etc. Avec des chevaux, on va faire en fonction de chaque... En fait, on ne fait pas du sport, donc on peut tous permettre de faire vraiment... C'est des artistes, en fait, et on fait avec leur personnalité ce qu'ils sont, dans le respect de ce qu'ils sont. S'ils n'ont pas envie de faire quelque chose, on n'insiste pas, en fait. On ne va pas aller contre eux, contre leur volonté. On sait qu'ils ne sont pas faits pour ça. On ne va pas insister à ces endroits-là. Voilà. Alors la suite, alors déjà on a beaucoup de choses en ce moment, c'est-à-dire que Manolo là est sur une création plutôt de danse avec Kaori Ito qui a fait la chorégraphie, il a joué au Grand Théâtre à Aix, je ne sais pas si vous étiez à Aix, aussi pour le... Ben, bref, là il est en tournée en ce moment. Moi j'ai un solo avec un texte d'un auteur contemporain qui s'appelle Fabrice Melchiot, qui est un auteur qui a écrit spécialement pour moi et pour Sombre, que vous avez vu, un texte assez engagé qui commence comme ça. C'est une femme qui claque la porte et qui dévale les escaliers. Elle quitte une autre femme. Elle se sépare et elle va traverser la ville de Paris la nuit, en plein hiver, dans le brouillard et la neige. Et dans cette nuit-là, dans cette traversée de cette ville si particulière, elle va traverser toutes les séparations qu'elle a eues dans son existence, les séparations amoureuses, mais pas que, aussi les séparations avec d'autres personnes importantes dans sa vie. Et elle va rencontrer des animaux sauvages, donc un lynx, un cerf, bref, des animaux sauvages, et elle va rencontrer des humains encore plus sauvages que ces animaux-là, et elle va être violée. Et voilà, ça raconte ça aussi, comment on peut transcender, je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, sortir de ça, et sortir par le haut et par une forme de puissance, voilà. Le texte raconte ça, voilà. Donc c'est un texte pas facile, mais qui est très beau, très poétique et qui très. Il a fait aussi la mise en scène. Moi, j'ai fait les chorégraphies. C'est vraiment un très bel objet que j'aime beaucoup. Et on a très envie de faire une nouvelle création, donc tous les deux. Et on a une commande du Théâtre de la Mer à Sète. Donc c'est un grand théâtre qui fait 2000 places face à la mer. Donc je vous invite dans 2 ans, parce que ce sera dans 2 ans précises. Et l'idée, c'est de travailler avec nos 6 chevaux, donc 3 et 3, et de pouvoir travailler aussi avec d'autres personnes. Donc on serait 6 au plateau et 6 chevaux. Voilà, en gros, c'est ça. Et aussi Fabrice Melchior qui va nous écrire des textes qu'on va dire en voix directe sur le au micro, de manière frontale au public, et on va être sur d'un rapport, le pitch là, mais à vrai dire, on est au tout début, donc je ne sais pas comment faire. En fait, on va aller très loin dans une idée de grande sophistication d'un côté, et en même temps un désir d'ensauvager le monde, quoi. Enfin voilà, dans cette sorte de grand écart entre le sauvage et le domestiqué. Voilà, et questionner l'un avec l'autre. Voilà. Bah, c'est une bonne question parce que on se demande comment c'est possible et en fait, c'est très facile. Ça paraît impossible et très lourd et très compliqué et impossible et voilà. Et en fait, le voyage est assez simple. Les chevaux voyagent plutôt très bien. Ils dorment en fait. Ils se laissent bercer par la route. Alors évidemment, c'est des choses qui s'apprennent. En fait, il faut leur apprendre à rentrer dans un van ou à rentrer dans un camion. On va les rassurer avec ça. On va leur donner à manger à l'intérieur. On va les apaiser avec ça. D'abord, on va commencer par des tout petits trajets. Puis ensuite, on va emmener progressivement vers des plus longs trajets. Donc tout ça, c'est aussi une question d'apprentissage. Mais au final, tant qu'ils sont rassurés, ils savent qu'ils sont en sécurité, qu'ils ont du foin toute la journée, qu'ils vont avoir de l'eau régulièrement, et que quand ils vont arriver, ça va ressembler à peu près à ce qu'ils ont déjà vu, c'est-à-dire un théâtre ressemble à un autre théâtre. Et donc, ils sont plutôt tranquilles avec ça. Et finalement, prendre l'avion aussi, c'est assez facile. Quand on est allé à La Réunion, là, il n'y a pas longtemps, en fait, ils sont comme dans un camion, c'est-à-dire qu'ils sont maintenus. Hein, il faut pas qu'ils aient trop de place parce qu'il faut qu'ils soient protégés par des bas-flancs. Mais c'est très safe, en fait. Hein, c'est comme nous, on peut même régler la température du cockpit pour eux. Et donc, ça se passe plutôt très bien. Ils sont accompagnés, il y a toujours quelqu'un avec eux, oui, bien sûr. Oui, tout le temps, mais on ne les quitte jamais, en fait. Nous, on voyage tout le temps avec nos chevaux. Hein. On ne les laisse pas, en fait. Enfin, c'est extrêmement rare qu'on ne soit pas dans les transports, en fait. Il y a Manolo, moi, on est tout le temps avec les chevaux. C'est peut-être quand on sera très, 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 très vieux, d'autres le feront pour nous. Mais alors, le décalage horaire, c'était une question parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une thèse là-dessus, donc on s'est renseigné. Et la thèse définit que comme le cheval dort régulièrement à l'intérieur de sa journée, qu'en fait, il ne souffre pas du tout du décalage, beaucoup moins que les humains. Nous, on fait des très longues nuits, alors qu'eux, en fait, ils ont un sommeil entrecoupé. Enfin, voilà. Donc, ce n'est pas un problème. Et le climat, le climat, c'est beaucoup plus compliqué parce que les chevaux, enfin mes frisons, souffrent de la chaleur. Et c'est pas simple. Parce que c'est des chevaux qui sont à l'aise quand il fait plutôt très froid. Et là, par exemple, on va rentrer dans les périodes très chaudes. Moi, je vais militer pour qu'on leur fasse une vraie pause en été, ou alors il faut qu'on les déplace, quoi, parce que c'est trop trop chaud, quoi. Toute la nuit ça va bien, mais la journée on peut rien faire, on peut pas les travailler, c'est difficile, quoi. Moi, ce que je pense, c'est que C'est les chevaux qui nous ont domestiqués, hein. C'est pas l'inverse, hein. J'en suis sûre. Non, mais j'en suis vraiment convaincue. C'est-à-dire que c'est parce que certains humains se sont adaptés et ont eu la capacité de vivre avec les chevaux que ces humains-là ont eu une meilleure espérance de vie et qu'on a réussi à mieux se reproduire. Je suis sûre de ça. Mais vous avez l'air dubitatif, j'en suis sûre. Il faudrait faire des études précises à ce sujet-là. Mais donc c'est vraiment, enfin, je suis sûre que c'est en tout cas c'est dans une forme d'aller-retour. Il faut pas être trop auto-centré, c'est-à-dire humano-centré. On s'est domestiqué, peut-être l'humain a domestiqué les chevaux. Mais les chevaux nous ont aussi un peu domestiqués et c'est équivalent aussi aux chiens, aux chats, etc. Qui est le maître dans une maison, ben, c'est un chat, hein, on va dire, c'est lui le patron. Ben, voilà. Mais c'est encore plus vrai des chevaux qui ont vraiment métamorphosé l'histoire de l'humanité. Et ils nous ont aidés à être ce qu'on est aujourd'hui. Et c'est parce qu'on a réussi à s'adapter à eux, enfin à être en connivence avec eux, qu'on en est là où on en est aujourd'hui. Bon, merci.